en vous présentant ces deux ouvrages, c'est quelque chose, c'est une gageure, parce que présenter ensemble deux ouvrages que j'ai soit co-dirigés, soit dirigés pour le seul, pour le deuxième, je rassemble les contributions d'une douzaine d'interlocuteurs, d'une douzaine de contributeurs différents et qui appartiennent à 3, 4, voire 5 disciplines universitaires différentes. C'est donc une gageure d'essayer de retrouver des fils communs dans ce puzzle que sont ces deux ouvrages. Alors, il y a bien entendu un fil commun, c'est la thématique générale éducation et territoire. Au-delà de ça, il y a des différences. Alors, sur les points communs sur lesquels je ne m'attarderai pas, d'une part, ces ouvrages ont été publiés dans la même collection, la série éducation, qui est pilotée par mes deux collègues, Anne-Laure Le Guerne et puis Angela Barthes, qui assure le pilotage de la collection. Et ces deux ouvrages ont été, si quelqu'un veut faire un peu d'anglais, traduits en anglais et publiés et diffusés dans le monde anglo-saxon, ce qui est tout à fait intéressant parce que dans les études, notamment sur la dimension éducation et territoire, on a deux grandes tendances. On a le monde, j'allais dire latin, avec ce qui est l'Europe du Sud et la France, la péninsule ibérique, et puis l'Amérique du Sud et le Québec. Alors, c'est dans le monde latin, j'allais inclure, si vous me permettez, la Suisse, hein, qui est, et bien entendu la Belgique, que je me garderai bien d'oublier. Et puis, on a le monde anglo-saxon, et avec des façons d'aborder la problématique qui sont différentes. Et le fait de publier, de voir ces ouvrages traduits, publiés et diffusés en anglais, c'est quelque chose qui est susceptible de permettre la confrontation entre ces angles d'attaque qui, très souvent, avaient tendance à s'ignorer très largement les uns des autres. Ils ont été publiés dans la même collection chez le même éditeur, traduits en anglais, et ils portent de façon différente, bien entendu, puisque ce sont deux ouvrages sur la même thématique éducation, territorialité et territoire, sur lequel je vais revenir tout au long de mon propos. Et puis également, Patrice l'a signalé dans son introduction, il s'appuie sur un cadre conceptuel commun qui sont issus des trois grandes disciplines fondatrices de l'Observatoire de l'école rurale et de l'Observatoire éducation et territoire, que sont la sociologie, la géographie et les sciences de l'éducation, aujourd'hui sciences de l'éducation et de la formation. Oui, il paraît que je peux enlever le masque sans craindre de vous contaminer, ce que je fais volontiers. Alors, contaminer, non, bien entendu, mais enlever le masque vraiment très volontiers. Merci. Alors, vous avez vu, je vous ai dans la diapo qui est derrière moi, il y a un certain nombre de concepts et de notions qui ont été, alors c'est pas une liste, qui ont été mobilisés au travers de ces deux ouvrages, et vous voyez que ces concepts et ces notions s'alimentent, ont plusieurs origines et plusieurs origines disciplinaires. Et puis enfin, mais je l'avais signalé tout à l'heure, donc le puzzle que constitue chacun de ces deux ouvrages et puis ces deux ouvrages réunis donc correspond à une pléiade plus de 12 auteurs différents quand on prend, on cumule les deux ouvrages. Alors, je vous ai parlé des éléments contextuels qui sont communs aux deux ouvrages. Ça, c'est facile, c'est simple. J'ai commencé par le plus simple. Je crois que c'est quelque chose d'habituel. Et je vais passer maintenant aux principales différences. Alors, les différences, avant de rentrer dans le contenu, je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a pour le premier ouvrage, trois directeurs d'ouvrages différents qui correspondent à trois disciplines différentes. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir que l'approche n'est pas la même d'un auteur à un autre, d'une discipline à un autre. Et puis, un seul, c'est moi-même pour le second ouvrage. Et Patrick y a insisté, peut-être un peu trop lourdement pour mon âge, en parlant de décennies de travail sur la question éducation et territoire, mais il est vrai que l'Observatoire de l'école rurale qui a été fondé en 1997, c'est-à-dire il y a quasiment 25 ans, permet d'avoir une profondeur d'analyse et d'enquête et donc d'analyse suffisamment forte. Et ce premier ouvrage, donc, il correspond à la synthèse actuelle des données et des éléments constitutifs de la problématique éducation et territoire. Le second ouvrage, que à l'inverse que j'ai donc dirigé seul, lui, il est issu d'un séminaire qui a duré 3 années, dans lequel un certain nombre, Patrice est venu présenter les travaux des eaux, donc un séminaire sur la thématique éducation, territorialité et territoire, qui avait rassemblé successivement, il y avait tous les 3 mois une séance de ce séminaire, et ce séance de séminaire rassemblait une fois un chercheur de mon laboratoire éducation, culture et politique, et une autre fois un chercheur venu d'un autre laboratoire, soit français, soit étranger, et vous verrez d'ailleurs que je fais référence dans un certain nombre de cas à des chercheurs étrangers. Alors, le premier ouvrage parle plutôt des impacts territoriaux sur l'éducatif et se focalise sur les territoires en tant qu'acteurs éducatifs. On verra ce que cela veut dire dans le détail tout à l'heure. Tandis que le second ouvrage commence à développer des comparaisons inter-pays à côté de monographies thématisées pays par pays. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes perspectives, mais dans des perspectives qui se complètent les unes les autres. Alors oui, je pense qu'il faut que j'appuie chaque fois 2 fois pour arriver à faire passer la diapo. Donc, sur le premier ouvrage, Permanence et évolution des relations complexes entre éducation et territoire, alors ne vous frappez pas de voir qu'il y a des S partout, c'est une précaution d'écriture pour celui qui écrit et qui rédige. En mettant des S, on se trompe pas. Bon, on est sûr que on ne fait pas d'oubli. Donc, si vous êtes étudiant, quand vous écrirez, vous rédigerez des masters des mémoires de master de recherche ou des thèses, vous verrez que le pluriel est souvent bien pratique dans la rédaction. Et puis, donc, on va voir ces évolutions au travers d'un certain nombre de points saillants, et ce sont les 3 diapositives suivantes. Ces 3 diapositives ne correspondent pas d'ailleurs au déroulé de l'ouvrage stricto sensu, c'est pas linéaire, mais ils correspondent à des regroupements. Cet ouvrage est divisé en 3 parties, et la première partie est centrée sur les évolutions historiques et les modalités contemporaines des interactions, des relations entre éducation et territoire. Alors, il y a 5 chapitres dans cette première partie d'ouvrage. Dans la première, qui est un chapitre écrit par notre collègue Bruno Garnier, qui est professeur à l'université de Corte en Corse, c'est là, il a abordé, Bruno Garnier, la place du territoire dans les politiques publiques d'éducation et notamment dans le cadre de l'école de la République qui a prôné et qui a été une longue construction des valeurs universelles que l'on retrouve partout contre les identités locales. Alors contre, c'est pas simplement, c'est en face d'identité locale et il y a eu, suivant les moments, suivant, on verra, et suivant les étapes, on verra tout à l'heure dans le second ouvrage, les identités locales ont pu se développer un peu plus ici ou un peu plus là, alors qu'on était dans le cadre d'une marche très générale vers des valeurs universelles qui sont celles des valeurs de la République française et portées depuis les Lumières. Ça, donc, c'est un premier chapitre qui traite vraiment de ces 2 tendances de fond qu'on retrouve dans le système éducatif français et dans les politiques publiques, avec la tendance de fond majoritaire, c'est celle de la construction d'une école unique au travers du 19e siècle, pour celles et ceux qui connaissent des lois Guizot, Ferry, etc., qui a mis 2 siècles à se construire et qui, aujourd'hui, est de plus en plus questionnée. Le deuxième chapitre parle d'un personnage particulier que vous avez côtoyé pour ceux d'entre vous qui sont les plus jeunes ici depuis pendant longtemps au cours de votre scolarité, ce sont les chefs d'établissement. Et les chefs d'établissement, d'après les enquêtes qui ont été menées par Alain Bouvier, qui connaissait bien, qui est actuel, qui est un ancien recteur et qui a été directeur d'un institut de formation des maîtres, ils ont ces enquêtes. Il n'était pas le seul, hein, pour mais j'ai mis qu'un nom parce que sinon mon propos aurait été trop allongé. Ont montré que à minima les chefs d'établissement servaient d'intermédiation, de relation entre les deux. Parfois, ils allaient plus loin et il y avait de l'interaction, c'est-à-dire de l'action commune qui rassemblait le territoire et l'établissement scolaire. Mais à minima, c'était le dialogue entre le territoire et l'établissement passé par le chef d'établissement. Et que c'était un des nouveaux rôles des chefs d'établissement d'assurer au travers de partenariats un dialogue entre un établissement scolaire et son territoire. Alors ça, c'était quelque chose qui est plus valable pour le second degré que pour le premier degré, étant entendu que les directeurs d'école dans le premier degré ne sont pas des chefs d'établissement, c'est un pair parmi d'autres, alors que dans le secondaire, les chefs d'établissement sont des personnages qui ont, entre guillemets, le pouvoir. Ils ont à la fois, ils sont ordonnateurs des finances de l'établissement et ils sont juridiquement compétents pour représenter l'établissement en cas de conflit. Le troisième chapitre est quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui est nouveau, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé les territoires apprenants. Les territoires apprenants, c'est un grand mot, mais qui n'est pas encore très bien défini, très bien stabilisé, et que l'on a trouvé sous d'autres formes dans beaucoup de lieux. Je parlais tout à l'heure avec Patrice en aparté des villages éducateurs. Depuis les années 90, les Catalans parlent du village éducateur, c'est-à-dire que l'école n'est pas seulement chargée de l'éducation de la communauté des enfants, mais c'est au-delà de l'école, l'ensemble du village. On parle de villes intelligentes, on parle de territoires apprenants, et on est dans le même cadre, c'est-à-dire que le développement de connaissances et de compétences ne se fait pas par le seul truchement de l'établissement scolaire, mais par les relations que l'établissement scolaire développe avec, dans le cadre de son environnement. C'est quelque chose d'ailleurs qui existait bien avant que la notion de territoire apprenant ne soit développée. Quand vous pensez, ceux d'entre vous qui ont été en école maternelle, quand on est avec les TPS, les toutes petites sections ou les petites sections de maternelle, les enfants que l'on voit ne sont pas vierges de toute connaissance. Ils ont un certain nombre de savoirs qui sont issus de leur famille, de leur village, de leur environnement, et qui ne sont pas des savoirs académiques comme ceux que l'école a à la charge au travers de ses programmes de leur faire acquérir, mais qui sont des savoirs qui sont souvent des vecteurs, des tremplins pour aller vers des savoirs académiques. C'est-à-dire qu'ils savent un certain nombre de choses, et autrement dit, le territoire dans lequel ils vivent, eh bien, c'est un territoire qui apprend quelque chose à ses élèves. Une autre dimension qui a été développée, ce sont les éducations à. Vous savez que dans le domaine éducatif, vous avez ce qui relève des curricula, les mathématiques, le français, enfin, etc. Et puis, des objets, j'allais dire, non identifiés en matière d'éducation, qui sont les éducations à, et pour lesquels il n'y a pas forcément de curriculum totalement stabilisé, et pour lesquels il y a même parfois un certain nombre de controverses scientifiques. Alors, les éducations A, vous en connaissez beaucoup, à la santé, l'éducation à la santé, l'éducation au développement durable, l'éducation au code de la route, à la citoyenneté. La première, je voulais vous rappeler, auquel on ne pense pas toujours, elle date de 1973, c'est l'éducation à l'orientation qui a été développée avec ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles procédures d'orientation. Et il y avait, les professeurs étaient chargés, avec d'autres personnels, les conseillers d'orientation par exemple, étaient chargés de développer l'éducation à l'orientation. Alors c'est quelque chose qui s'est fait plus ou moins, vous en avez rencontré dans votre parcours scolaire, mais c'est, quand je dis plus ou moins, c'est plutôt moins que plus. Hein, c'est-à-dire que l'éducation à l'orientation n'a pas beaucoup pris, et de la même façon, un certain nombre d'éducation A ne prennent pas. Il semble néanmoins que aujourd'hui, l'éducation qui était avant relative à l'environnement ou l'éducation au développement durable se développe davantage que par le passé, l'éducation, j'allais dire, au code de la route ou à la santé ou à la citoyenneté. Et ces éducations A sont vécues souvent comme une espèce de porte d'entrée de l'extérieur vers l'école, vers l'établissement, dans la mesure où elle suppose l'établissement de partenariats, de partenariats avec des structures extérieures. Si on veut apprendre le col de la route, il y a un partenariat évident avec les pompiers ou avec la Croix-Rouge, par exemple. Et autrement dit, ces éducations A participent au développement de territoires apprenants. Et enfin, dans un autre, vous savez que le système scolaire français, je parle du public, il est dans sa grande majorité, il est fait d'établissements relevant de l'éducation nationale, mais certains établissements relèvent de l'agriculture. Et il y a des établissements de formation. Par exemple, il y a dans chaque département au minimum un lycée agricole qui relève du ministère de l'agriculture. Et ce ministère de l'agriculture a développé avant l'éducation nationale des liens entre l'éducation au développement durable, par exemple, ou à l'environnement, et le territoire. C'est quelque chose qui a été développé avec des pédagogies qui ont été appelées, par exemple, il y a le centre de formation de Florac qui a développé des pédagogies actives qui ressemblent assez fortement, pour ceux qui viennent des sciences de l'éducation, des mouvements pédagogiques de type freiné, c'est-à-dire où on s'appuie sur le territoire environnement qui fournit des ressources et des outils pour développer un certain nombre de savoirs. Donc c'est quelque chose qui s'est développé plus fortement dans l'éducation relevant du monde du ministère de l'agriculture et qui a commencé véritablement à partir de la loi Rocard de 95, qui était le moment où l'enseignement agricole a basculé vers, de façon officielle, vers ces partenariats éducation et territoire. Donc c'était la première partie, vous voyez, qui était scindée en plusieurs chapitres, les uns s'appuyant sur l'histoire, ce qui a été fait dans le cadre de l'histoire, et les autres développant des modalités plus contemporaines de partenariat entre l'école et le territoire. La partie 2 traite de quelque chose qui est essentiel pour les sciences de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire les territoires sources de renouvellement pédagogique. Je vous parlais tout à l'heure, j'évoquais la pédagogie freinée, où on s'apercevait que on pouvait utiliser les ressources du territoire et les savoirs que détenaient les élèves avant de rentrer à l'école pour petit à petit les dégrossir et les amener les élèves à cheminer vers des savoirs académiques et des savoirs universels qu'on pouvait transférer. Eh bien, les territoires ont, dans l'histoire de l'éducation, de l'école française, ont été source de renouvellement pédagogique au-delà des mouvements freinés dont je parlais. Je demandais à Reiser, c'était à Paris, c'est quoi le local pour vous ? Donc le dessinateur satirique avait dit, le local, ben, c'est très simple, vous prenez un habitant de n'importe où de Paris, vous lui mettez un fil à la patte, si j'ose dire, et puis vous voyez, vous le faites descendre le dimanche matin, là, quand il va chercher des croissants, un journal, et puis, etc. Et bien finalement, vous faites un cercle à partir du rayon là, et vous avez la définition du local, c'est-à-dire c'est le territoire de vie immédiat dans lequel s'inscrivent les gens. Et cette notion d'habiter a été développée, notamment très récemment, par Lousseau. Et au travers de ça, il y a un renouvellement du local dans les études de géographie. Alors ça, c'est pour le disciplinaire. Mais au-delà du disciplinaire, il y a eu, et ça a été mis en évidence par une collègue, Catherine Rothenburger, qui a travailler sur la notion d'identité professionnelle et de savoir si cette identité professionnelle avait un rapport, quelque chose à voir avec le territoire. Eh bien, elle s'est aperçue, au travers d'enquêtes, elle a démontré que l'identité professionnelle d'un enseignant travaillé dans un milieu près n'était pas donnée par simplement par sa formation curriculaire et professionnelle, mais elle était aussi donnée au travers du territoire dans lequel il était, et que le fait pour un enseignant de s'impliquer et de se faire reconnaître par les acteurs du territoire, c'était quelque chose qui contribuait à modifier l'identité professionnelle de l'enseignant. Et les enseignants qui étaient depuis quelques années, par exemple, ça a été clairement mis en évidence par Catherine, qui étaient dans un même territoire, par exemple rural, puisque c'était le cas, eh bien, lorsque ces enseignants s'étaient acculturés au territoire, et notamment, Patrice en a parlé tout à l'heure, au territoire rêvé, au territoire symbolique, à tout l'imaginaire lié à ce territoire, lorsqu'ils partageaient ce qu'on appelle la territorialité avec leurs élèves, eh bien, non seulement l'enseignement se passait mieux, mais les résultats étaient davantage probants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important. Également, c'est la contribution, une troisième contribution de ce domaine, c'est comment inscrire le territoire dans l'éducation relative à l'environnement. Et c'était là une notion qui a été développée par Christian Reynaud pour montrer comment on pouvait faire travailler ensemble, et c'était absolument indispensable, et apparenter ou apparier un environnement qui était non humain avec les motivations humaines. Et quand il y avait apparentement entre les deux, c'est un petit peu ce que disait Catherine sous une autre forme, les choses se passaient plus simplement. En gros, un enseignant qui est bien acculturé à son territoire, qui s'inscrit dans son territoire, non seulement reçoit de la part de ce territoire des marques, des strokes positifs en prenant le langage des psychologues, mais en même temps, il est plus satisfait de son enseignement, et il a un enseignement qui donne davantage satisfaction et davantage de résultats. Enfin, et c'est une de nos collègues des Hautes-Alpes, Sylviane Blanc-Maximin, accompagnée de Michel Floreau, qui ont essayé de voir quelle éducation au territoire on pouvait développer. Eh bien, cette éducation au territoire leur a semblé à la fois une opportunité pédagogique, un petit peu au sens où je vous parlais des mouvements freinés, c'était l'opportunité d'utiliser des pré-savoirs construits par des élèves. C'est pas toi qui tu sabotes rien.
Non, c'est Sylvia.
Donc, tu lui as coupé le sifflet, excuse-moi. Donc, l'éducation en territoire pouvait être vécue à la fois comme une opportunité pédagogique de mobiliser en faveur des apprentissages des élèves les ressources du territoire et les partenariats locaux, mais en même temps, c'était l'occasion de développer des valeurs qui pouvaient être un petit peu alternatives ou un petit peu différentes, et d'apprendre aux élèves ce que pouvait être une valeur, entre des valeurs liées à la centralisation ou à la décentralisation, au local versus le national, etc. C'était quelque chose au fait d'apprendre aux élèves petit à petit à construire une autonomie et à développer un petit peu le sens de leur inscription dans le territoire. Donc, la troisième partie de cet ouvrage renvoie davantage à des réflexions plus théoriques, mais qui sont toutes liées et inscrites dans les enquêtes qui ont été faites et montrées précédemment. C'est-à-dire que cette troisième partie va parler des politiques éducatives, comme vous voyez le titre, et des inégalités territoriales d'éducation, mais il s'agit d'une construction théorique à partir de données et d'enquêtes empiriques. C'est-à-dire, il y a une de mes collègues qui avait intitulé son mémoire « Ce que le terrain fait aux concepts ». Eh bien, les concepts ne naissent pas simplement de la réflexion individuelle. Les concepts naissent des connaissances que l'on développe au travers d'un certain nombre d'enquêtes. Et puis après, on essaye de voir quelles sont les récurrences. S'il y a des choses en commun, on essaye d'en abstraire un modèle et ce modèle devient le concept. Alors, le premier, dans ce chapitre 3, la première partie traite de l'école rurale et notamment de l'approche des contextes et des positionnements de la recherche. Alors, je ne suis pas rentré, je ne peux pas parler de tout et en une heure, mais vous savez que quand on parle de la réussite scolaire, il y a ce qui relève de l'individu soi-même, ça, génétiquement, c'est sa motivation, ça, etc. Il y a ce qui relève des données individuelles et il y a ce qui relève des données contextuelles. Les grands types de contextes qui interviennent dans la réussite scolaire sont les contextes sociaux, ce que vous savez bien qui a été étudié depuis Bourdieu et Passeron, mais par d'innombrables cohortes de chercheurs en France et à l'étranger. Et puis, les contextes institutionnels ou politiques, ceux qui relèvent des politiques scolaires, ceux qui relèvent des politiques départementales, des politiques d'établissement, des projets d'école, etc., etc. Et enfin, les contextes territoriaux, ce qui relève du territoire dans lequel s'inscrit un enfant pour son éducation ou un établissement pour sa structure. Eh bien, Angela Barthes et Ivalp font le tour des différents contextes et des positionnements actuels de la recherche. Donc, l'ouvrage a 4 ans, il est encore tout à fait d'actualité. Et ils essayent tous les deux de montrer où en est la recherche sur cette problématique. Et dans un deuxième temps, et c'est l'objet du deuxième chapitre, donc mes deux collègues se sont posé la question des politiques publiques qui avaient été conduites en France, des politiques publiques notamment territorialisées, et pour montrer que de façon très générale, alors il ne s'agit pas d'en faire une règle automatique, mais de façon très générale, ces politiques publiques n'avaient pas été bien adaptées à l'école, notamment à l'école rurale. C'est quelque chose, l'école rurale était souvent définie en disant c'est une école de seconde zone dans laquelle les élèves sont mauvais, les équipements sont faibles ou inexistants et dans lequel l'isolement scolaire, l'isolement social joue à plein. Or, ce n'est pas vrai. Toutes les enquêtes, notamment j'en parlerai tout à l'heure, qui ont été faites, y compris par le ministère lui-même, ont bien montré que l'école rurale n'est pas une école de seconde zone, c'est une école dans laquelle on réussit tout à fait correctement, voire un peu mieux que sur la moyenne française. Et donc, autrement dit, les politiques publiques qui avaient tendance à stigmatiser l'école française rurale, à dire que cette école fonctionnait mal, et à vouloir compenser les difficultés que cette école avait. Et c'est quelque chose qui ne marche pas parce que on est dans une logique stigmatisante et compensatrice pour une école qui finalement fonctionne plutôt bien. Et on verra tout à l'heure que l'école rurale française fonctionne bien en termes de résultats, un peu moins bien en termes d'orientation, mais qu'il n'y a pas besoin de bâtir des politiques pour compenser pallier les éventuelles insuffisances de l'école rurale. Alors, ça, c'était les deux premiers chapitres. Les deux derniers chapitres me sont imputables et c'est notamment le développement de quelque chose au sein du territoire. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là. Patrice a tout à l'heure débuté son propos en disant que le territoire était une notion difficile à définir et qu'en plus, les définitions, elles avaient varié dans le temps et elles varient selon les disciplines universitaires de ceux qui en parlent. Alors, pour moi, je me réfère effectivement souvent explicitement à Bernard Lalire, qui est un sociologue lyonnais, qui a défini le territoire de trois façons différentes. Il a dit, en gros, il y a trois types de territoires. Il y a les territoires prescrits ou institutionnels, c'est-à-dire l'académie, le département, la zone de recrutement d'un collège, d'un lycée, etc. Donc là, ce sont les territoires prescrits ou institutionnels. Il y a les territoires vécus dans lesquels les gens vivent, habitent et se développent. C'est quelque chose que l'on compte bien. C'est là où à la fois les habitants sont et les acteurs territoriaux se trouvent. Et puis, il y a un troisième territoire. Bernard Lahire parlait de territoire rêvé. Alors moi, je préfère parler de territoire symbolique, c'est-à-dire c'est les territoires qui renvoient aux représentations sociales des élèves, des habitants, etc., à ce qu'ils pensent de leur territoire, ce qu'ils pensent de leur école, ce qu'ils pensent de leur milieu de vie. Et donc, c'est quelque chose qui est relatif, qui est fortement connoté symboliquement. Et c'est quelque chose que l'on porte dans sa tête en le sachant. Les représentations sociales correspondent à une activité cognitive consciente, mais que parfois, dont on est parfois porteur sans le savoir et sans le connaître, c'est ce qui relève de l'inconscient collectif dont parlait Jung, ou de l'inconscient collectif qui a été remis en valeur par Merton au niveau des États-Unis. Donc, je reviens, moi j'ai travaillé sur l'impact, sur l'effet de la territorialité étant le territoire symbolique, pour faire court, hein, le territoire imaginaire, celui qui se réfère à nos valeurs, à nos identités, à nos représentations. Et cette territorialité produit des effets particuliers, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, des effets de territoire ou de territorialité sur l'école et notamment sur l'orientation. Et ceci a été développé dans le cadre de l'école rurale de montagne, mais c'est quelque chose qui est susceptible d'intervenir dans toutes sortes d'écoles et pas simplement sur l'école rurale. Et puis enfin, j'aurais dû aussi, mais je ne peux pas commencer à parler par tout à la fois, dire que l'Observatoire de l'école rurale s'était fondé sur la mise sur deux enquêtes longitudinales du CM2 jusqu'à la seconde, d'élèves à 12 ans d'écart, donc qui ont été interrogés en CM2, en 5e, en 3e, en seconde, les élèves et les parents, tous individuellement. Et donc, on a essayé de voir quelles étaient les spécificités de l'école rurale, puisqu'il s'agissait, et quelles étaient les représentations des élèves de cette école rurale. Et donc, on a pu voir que à 12 ans d'écart, donc il y avait, je reviendrai tout à l'heure sur la question, une certaine atténuation de la différence entre le rural et l'urbain, et que pour certaines représentations, alors on ne sait pas très bien à quoi c'est dû, on l'impute, mais j'en ai pas la preuve, au développement d'Internet et des réseaux sociaux dans le rural, ce qui est probable, mais ce dont je ne peux pas apporter la démonstration ici. Et il y a donc la spécificité rurale et la spécificité de la territorialité rurale pour certains items, pour certains éléments, est actuellement moindre qu'elle n'était il y a une quinzaine d'années. Est-ce que le territoire et plus particulièrement la territorialité produit des effets sur l'éducation? Et y a-t-il donc des effets de territoire? Et ces effets de territoire sont-ils les mêmes quels que soient les types de territoires? Alors, on reviendra encore une fois, je suis désolé de renvoyer à la fin, mais je veux pas, mon propos, je suis obligé de le construire progressivement. Donc, en ce qui concerne les effets de territoire qui sont attestés depuis une vingtaine d'années, ce sont des effets sur le territoire ruraux-montagnard. C'est-à-dire que c'est attesté et démontré pour ce type de territoire, ça ne l'est pas ipso facto pour n'importe quel type de territoire. Il reste à le démontrer. Et dans ce cadre-là, il a été montré que les élèves qui avaient de bons résultats scolaires à l'école rurale et au collège, c'est-à-dire qui étaient issus de l'école rurale et qui étaient dans des collèges, ces élèves qui avaient de bons résultats scolaires habituellement, c'est une loi statistique, loi mettez entre guillemets bien entendu, c'est une loi statistique, de bons résultats scolaires produisent chez les élèves des orientations vers un enseignement plutôt général et long. Alors, eh bien, cette loi générale ne fonctionnait pas au niveau de l'école rurale. Les élèves, donc, de troisième de collège qui étaient issus des classes uniques de la ruralité avaient des vœux d'orientation et des demandes d'orientation qui ne correspondaient pas à de l'enseignement général et technologique long. Ils demandaient de façon majoritaire d'aller vers un enseignement professionnel ou de proximité. Alors, je fais pas en se disant, je ne fais absolument pas de hiérarchie entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, entre le long et le court. On peut constater juste qu'à niveau scolaire égal, toutes choses étant égales par ailleurs, les élèves de la ruralité montagnarde utilisent moins que les autres l'ensemble de la palette des choix d'orientation. Et que sous cet angle-là, il y a une inégalité en défaveur du rural. Et cet effet de territoire, il s'appuyait, alors je vous passe les techniques qui ont permis de le mettre en évidence, il s'appuyait notamment sur un très fort ancrage territorial local, c'est-à-dire que les élèves et les parents qui font qui signent les fiches d'orientation des vœux, ne souhaitaient pas partir, ne souhaitaient pas que leurs enfants partent du territoire localement, et également, ça s'appuyait sur une plus faible capacité à se projeter dans l'avenir. Vous savez que quand on demande à des élèves psychologiquement, c'est tout à fait connu, en troisième de faire des vœux, certains et certaines d'entre vous doivent s'en rappeler, quand on est en troisième, quand on a entre 14 et 15 ans, eh bien, la capacité de se projeter dans l'avenir, c'est en gros de 6 mois, 1 an pour les meilleurs, et puis on vous demande de faire des choix, on demande à nos enfants de faire des choix qui vont les engager pour 5 ans, pour 10 ans, peut-être davantage, etc., alors qu'ils n'ont pas la capacité de se projeter dans l'avenir. Déjà, les adultes, ça a été aussi étudié sous l'angle de la psycho, les projets adultes, c'est entre 3, 5 et 7 ans au maximum. Quand quelqu'un parle dans 20 ans, il a aucune idée de ce que ça veut dire dans 20 ans. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, s'il se projette, il dit je rentre, ça me fait penser, je commence ma thèse aujourd'hui et dans 3 ans, je vais la soutenir. C'est quelque chose qui a du sens pour la. Mais 3 ans, 5 ans, 7 au maximum, peut-être faudrait-il voir s'il y avait eu un lien avec le septennat des présidents de la République avant le passage au quinquennat, mais au-delà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, une faible capacité de se projeter dans l'avenir, or un projet, comme son nom l'indique, c'est une projection. On ne peut pas envisager de projet sans projection. Et donc la question qui s'est posée à ce moment-là, est-ce que ces effets de territoire qui ont été observés en zone de montagne à 2 reprises, en troisième et en seconde, et qui sont attestés, est-ce qu'ils existent pour d'autres types de territoires, selon d'autres modalités? La question reste ouverte, et on va en parler un petit peu au travers du deuxième ouvrage.
Et je me permets de glisser un mot au sujet du temps.
Oui.
Puisque en 48 minutes, tu nous parles d'un premier ouvrage, et j'aurais aimé qu'on ait 30 minutes de débat avec les gens connectés et la salle. Et donc, c'est juste pour que tu tiennes compte de cette remarque.
Je te remercie, Patrice. Je vais essayer d'en tenir compte et de ne pas me laisser emporter par mon élan. Donc, le deuxième ouvrage, Territorialisation de l'éducation, donc tendance ou nécessité. Je ne rentre pas, je viens de vous dire, est-ce que la tendance vers une certaine territorialisation de l'éducation, est-ce que c'est quelque chose, j'avais mis irréversible, mais c'est plutôt vrai, irrésistible, est-ce que c'est quelque chose qui va se développer bonhomment là, de manière continue, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'arrêter, repartir, etc. On va rentrer dans le détail. Donc dans cet ouvrage, 4 parties, mais que je vais résumer en 3 diapos, donc c'était même indépendant de la remarque de Patrice. Donc, la première partie, c'est inscrire géographiquement, historiquement et symboliquement l'éducation dans le territorial. Donc, c'est quelque chose qui fait d'ailleurs la part belle. C'est un chapitre qui a été rédigé par le laboratoire ESO, ici, et qui a essayé de voir s'il y avait un lien entre les fractures scolaires et puis les inégalités de moyens données aux différents territoires. Et donc, je rentre pas, c'est des enquêtes qui ont été notamment développées dans le Grand Ouest de la France et qui ont montré qu'il y avait bien effectivement une différenciation et un lien entre les deux. C'est-à-dire que il est bien évident que si on donne plus ou moins de moyens, eh bien, l'école réagit de façon plus ou moins positive à cette présence ou à cette absence de moyens. Alors, la deuxième dans cette partie 1, c'est est-ce qu'il faut développer une école spécifique pour le rural ou pas? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des spécificités dans l'école rurale, mais est-ce qu'il faut aller plus loin et développer, comme il y a un enseignement agricole, même si les programmes sont actuellement les mêmes depuis la loi Rocard, est-ce qu'il faut développer une école rurale spécifique au sein de la République via des adaptations, etc. Alors, c'est une question qui aujourd'hui est toujours posée, mais à laquelle la réponse a été toujours fournie la même par la République française, c'est que l'école est une et indivisible, c'est la même, qu'on soit à l'école à Caen, à Grenoble ou à Marseille, on a les mêmes programmes et des enseignants qui sont formés de la même manière, etc., etc. Mais pourtant, il y a eu des interrogations qui existent, et Frédéric Moll revient à l'occasion d'un congrès de l'école rurale qui a existé dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres au XXe siècle, et qui posait la question avec, pour les ceux qui ont travaillé dans les sciences de l'éducation, il y avait une intervention de Ferdinand Buisson qui posait la question de l'école rurale, est-ce qu'il faut l'adapter? Parce que vous savez que historiquement, l'école rurale s'est développée, c'est une école dans laquelle les élèves étaient dispensés de scolarité quand il y avait les travaux des champs, quand il y avait les vendanges, etc. Et donc, il y avait des adaptations qui étaient faites. Et au-delà de ces adaptations liées à la saisonnalité et aux travaux des champs, eh bien, la question s'est posée et a été posée à Ferdinand Buisson de développer une école spécifique pour la ruralité. Ça n'a pas été le cas, mais la question a le mérite d'avoir été posée en pleine construction de l'école républicaine une et indivisible. Enfin, une question de base, c'est aussi l'école inclusive. Est-ce que la territorialisation permet de répondre à l'école inclusive? Là encore, on est parti du cas de l'école rurale. Vous savez que dans les écoles rurales, il n'y a pas de structure pour prendre en charge les élèves en situation de handicap. La population scolaire et la population scolaire en situation de handicap est démographiquement trop faible pour développer des structures. Et au-delà de cette absence de structure, on avait un accueil des élèves en situation de handicap par l'école elle-même, sans qu'il y ait de professionnels formés, sans qu'il y ait d'aide et de personnel pour aider les enseignants. Et c'est donc une question, comment faut-il, pour mieux répondre à la notion d'école inclusive, développer une école territorialisée ou pas? La réponse n'est pas fournie dans le texte, en l'occurrence. Mais la question vaut quand même d'être posée. La partie 2 renvoie à une question notamment qui est la question de la formation des enseignants, pour lequel je l'avais abordé un tout petit peu à l'occasion du premier ouvrage. Faut-il former les enseignants qui vont exercer dans le rural ou en éducation prioritaire à ces territoires d'exercice et à ces publics particuliers? Certains pays ou certaines régions y ont répondu favorablement. Par exemple, en Catalogne, actuellement, si on veut être prof des écoles, l'équivalent, dans le rural, il faut avoir un master d'enseignement général, comme chez nous, plus en un an faire un master spécialisé de connaissances du monde rural. Et il faut les deux pour le faire. En France, ce n'est absolument pas le cas. Quand vous sortez d'un ESPE, vous pouvez être affecté, alors plus ou moins parce qu'il y a eu un certain nombre de règles pour atténuer les choses, mais vous avez vocation à aller enseigner partout, que ça soit dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers en difficulté, ou bien dans les zones rurales isolées, ou bien dans les centres-villes. Tout est possible. Et autrement dit, cette construction de l'identité professionnelle via la formation, c'est quelque chose qui a été posé et résolu dans certains domaines, et ce qui n'est pas le cas chez nous, mais c'est une vraie question de savoir. J'ai été moi-même il y a quelque temps directeur adjoint d'IUFM et je n'ai pas pu, il y avait beaucoup de résistance, développer une formation adaptée à la ruralité. Des enseignants que j'étais chargé de former, ils étaient tous formés sur le même moule, et qu'ils enseignent sur le plateau Ardéchois ou qu'ils enseignent dans la ville de Grenoble. Or, les besoins des élèves et les publics étaient différents, et si les objectifs, les buts de la formation, ce sont les mêmes savoirs et les mêmes compétences, les cheminements pour y accéder peuvent être différents. Alors, je vais aller un peu plus vite. Les questions d'apprentissage aussi. Est-ce que l'apprentissage est une... Y a-t-il une variabilité territoriale de l'apprentissage? Apprend-on différemment, mieux ou moins bien, la même notion à l'école rurale ou à l'école urbaine? C'est quelque chose qui a été peu étudié en France, mais qui a été étudié au Portugal par un de nos collègues qui est prof de psychologie à l'Université de Lisbonne et qui a étudié les apprentissages scolaires et qui a montré qu'il y avait des formes d'apprentissage et des modalités d'apprentissage avec des résultats différents entre les élèves formés à l'école urbaine et les élèves formés à l'école. Les objectifs de formation étaient les mêmes, il s'agissait de maîtriser les mêmes savoirs. Alors, par exemple, mais c'est un tout petit exemple, ce collègue a montré que les élèves qui étaient formés dans l'école rurale étaient des élèves dont les apprentissages étaient plus globaux et moins séparés en disciplines scolaires différentes que dans l'école urbaine. De la même façon, la motivation qui était développée, c'était plutôt une motivation intrinsèque, formée, poussée par la curiosité et l'intérêt de l'élève, et non pas une motivation extrinsèque fondée sur la carotte et le bâton, la reconnaissance ou la punition, etc. Une autre question qui a été posée, donc je suis désolé d'aller vite, c'était les langues d'enseignement, et ça a été posé par notre collègue Bruno Carnier en Corse. Est-ce que les langues d'enseignement, lorsqu'il n'y a pas coïncidence entre le territoire, la langue maternelle et la langue d'enseignement, est-ce que ça produit des difficultés? Et ce que nous a montré Bruno Garnier, c'est qu'il y a le développement d'une certaine insécurité linguistique, non pas une maîtrise moindre, mais une insécurité, les élèves ne sachant pas très bien à quel moment ils doivent utiliser telle ou telle langue, à mesure où ils en ont deux ou trois à disposition. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, la formation... La territorialisation de la formation professionnelle initiale et continue des enseignants, bon, la question est très largement posée. Faut-il qu'il y ait un temps de formation territorialisé en fonction du futur poste ou des futurs postes ou pas? C'est quelque chose, il semble bien que ça soit utile, mais comment le mettre en œuvre et quand le mettre en œuvre, enfin, etc. L'éducation nationale en France ne sait pas encore... chargé de développer ce genre de choses. Personnellement, je pense qu'il serait nécessaire un enseignant qui est en INSPE et qui peut avoir vocation, il faut qu'il apprenne à enseigner en éducation prioritaire, qu'il apprenne à enseigner en milieu rural, etc. C'est-à-dire, on peut pas dire à l'avance où ira un enseignant, mais comme au travers de ses nominations et de sa mobilité professionnelle, il est susceptible d'aller partout, eh bien, il faudrait le former aux principaux terrains d'exercice et aux principaux types de publics. Donc, partie 3 et 4, je vais un peu plus vite quand même. Partie 3 et 4, donc, je vais rentrer moins dans le détail. Donc, les publics scolaires se différencient-ils toujours autant en fonction des évolutions territoriales. Je vous avais dit qu'on avait une certaine, il y avait une certaine tendance qui avait été constatée à l'homogénéisation du public, qu'il soit d'origine rurale ou d'origine urbaine. Et on a pu voir que un certain nombre de représentations ou de sentiments des élèves étaient en phase d'atténuation, les représentations contrastées des villes et des campagnes, qui étaient très contrastées, le deviennent un peu moins, l'appétence ou le goût pour l'école, et qui était très fort dans l'école rurale et très faible dans l'école urbaine, il a tendance à décroître dans l'école rurale et à se rapprocher de ce qu'on constate dans l'école urbaine, et puis surtout la sous-estimation de soi, qui était les élèves ruraux avaient tendance très fortement à se sous-estimer, c'est-à-dire à penser qu'ils étaient moins bons qu'ils n'étaient en réalité. Cette sous-estimation de soi diminue aussi bien chez les élèves que chez les parents. Et les parents pensent que leurs élèves sont meilleurs. Ça ne change pas au niveau réel, mais c'est le sentiment que l'on a de son estimation personnelle. Eh bien, à l'inverse, il y a d'autres items qui constituent des poches de résistance et qui ne changent pas, notamment le rejet dans la ruralité de l'envie de la mobilité vers les pays étrangers. Ça, c'est-à-dire les pays étrangers sont toujours vécus comme à la fois comme quelque chose de loin et de non désirable parce que trop loin. Et surtout, le plus important, c'est les niveaux d'aspiration et d'expectation en matière d'orientation. C'est ce que l'on veut faire, le niveau d'aspiration. Et le niveau d'expectation, c'est ce à quoi l'on s'attend. Hein? Eh bien, les élèves ruraux, aujourd'hui, ils ont toujours une aspiration faible. Ils veulent pas faire des études longues et générales. Et ils ont une expectation forte, ils s'attendent à échouer. C'est-à-dire, non seulement ils veulent pas aller loin, mais en plus, ils s'attendent à échouer dans leur... Et c'est quelque chose qui n'est pas modifié, et notamment qui n'est pas modifié en raison peut-être de la pénétration d'Internet. Enfin, on a eu un chapitre sur le numérique et le territoire, notamment avec à la fois des aspects théoriques et des enquêtes de terrain liées à la figure de projet, le territorial étant vécu souvent pas au travers de la figure de projet, comme quelque chose qui est une variable d'ajustement, et non pas comme quelque chose, une réalité qu'il faut prendre en compte, mais on la prend en compte uniquement, ben, si on a le temps, peut-être, une variable d'ajustement, ça dit bien ce que c'est, et c'est quelque chose qui a été vu au travers à la fois des enquêtes, certaines enquêtes des eaux, et des enquêtes d'Anne Piponnier sur de façon théorique. Alors voilà ce que je voulais vous dire et je voudrais terminer mon propos par deux diapos qui vont vous faire le point au-delà ces deux ouvrages, c'était 2017 et 2020, mais il y a des ouvrages en 2021 qui sont parus sur la même problématique que je voulais vous donner et puis également des ouvrages qui sont en cours de parution, qui vont paraître fin 2021 ou courant 2022, dont je voudrais vous dire un mot. Donc je reviens pas sur... Ce que je disais tout à l'heure dans le petit paragraphe de synthèse qui montre qu'il y a un certain mouvement vers la territorialisation au travers de l'école de la République qui est une et indivisible, mais ce mouvement qui souvent est dit comme contradictoire, on oppose la République jacobine dans laquelle l'éducation doit être délivrée de la même façon partout à une territorialisation de la formation. En fait, les choses sont peut-être plus complémentaires et qu'il y a peut-être simplement des changements d'échelle ou de centralisation, décentralisation, c'est-à-dire des compétences que l'on peut exercer à certains niveaux et pas d'autres. Je reviens pas là-dessus, mais vous trouverez dans les différents chapitres de quoi à vous faire une idée. Alors, trois ouvrages qui sont à venir. Un premier ouvrage que je vais qui correspond à mes propres recherches et qui doit paraître d'ici la fin de l'année, qui est un ouvrage encore dans la collection ISTE, mais en géographie, non plus en éducation, dans la collection qui est dirigée par François Thémine, ici présent, et qui va s'intituler la territorialité, un concept clé pour contextualiser l'éducation. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la problématique éducation et territoire en général, ciblera et se centrera sur la territorialité et ses effets sur l'éducation et plus particulièrement sur l'orientation des élèves. Et puis deux autres ouvrages qui sont dans une collection que je dirige chez l'Harmattan, qui sont des ouvrages qui montrent les tensions qui existent dans l'école. Un ouvrage sur l'école catalane entre tradition et innovation, qui montre bien que cette école catalane dont je vous ai parlé pour la formation des enseignants, c'est une école qui à la fois s'ancre dans la tradition pour développer des formes très modernes. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas forcément antinomie entre la tradition et la modernité et que cette école a développé des spécificités tout à fait intéressantes dont on pourrait s'inspirer chez nous ou ailleurs, hein, pas forcément. S'inspirer, ça ne veut pas dire prendre une recette et l'appliquer mécaniquement ailleurs, ce serait assez idiot, mais comprendre pourquoi quelque chose marche, essayer de voir si on peut, en l'adaptant aux réalités locales, aux contextes locaux, l'appliquer ici. Et puis, une de nos collègues aussi, Anne Chiardola, qui est actuellement vice-présidente déléguée de l'Observatoire Éducation et Territoire, et qui veut travailler sur les tensions qu'il y a entre les normes produites par l'institution et la réalité opérationnelle dans les territoires. Vous savez que quand on produit une circulaire, un arrêté, un décret, etc., ça renvoie à des normes, c'est-à-dire qu'il faut faire telle chose de telle façon, enfin, etc. Et quand on traduit ça sur le territoire, eh bien, il y a toujours un décalage, il y a une adaptation. Et est-ce que cette adaptation, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'elle est obligatoire, enfin, etc. Et que faut-il en penser? Faut-il développer ces adaptations ou pas? Donc, c'est une vraie question et c'est une tension entre les tenants de l'école une et indivisible et les tenants d'une école plutôt territorialisée. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous parler d'un numéro, là aussi je pense que c'est intéressant pour vous, du numéro 102 de la revue de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance de l'éducation, qui s'appelle « Éducation et formation ». Et dans ce numéro particulier, c'est un numéro de synthèse sur qui s'intitule « Les territoires de l'éducation, les approches nouvelles, les enjeux renouvelés ». Finalement, permanence et évolution, c'est la même chose que l'on disait. Voilà. On a juste la priorité, l'antériorité par rapport au ministère. Eh bien, cette revue, fait de façon tout à fait intelligente, montre que quand on essaye de voir l'impact des contextes, des différents contextes sur l'éducation, l'impact du contexte social, l'impact du contexte institutionnel et l'impact du contexte territorial, eh bien, si l'impact du contexte social est le plus important, on sait ça explique en gros, alors je vais rentrer dans le détail, 50% de la variance contextuelle de la réussite scolaire. Le contexte institutionnel ou politique, ça en exprime un tiers. Eh bien, le contexte territorial pèse d'à peu près 15% de cette variance, ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avions montré il y a 20 ans maintenant que l'impact du contexte territorial existait dans l'école rurale et de montagne isolée. Et l'ADEP a montré que dans tous les types de territoires, il y a un impact du territoire qui existe, a validé les recherches que nous avions faites sur un certain type de territoire en l'étendant à tous les types de territoires. Et aujourd'hui, au travers des travaux qui sont relatés dans ce numéro 102, on sait que le territoire pèse sur l'organisation de l'école, sur la pédagogie, sur la didactique, sur la réussite des élèves, etc. Quels que soient les types de territoires, il y a une partie faible, mais non négligeable, qui est imputable au territoire dans la variable contextuelle. Alors ça, c'est pour vous, c'est une petite bibliographie à jour d'ouvrages qui sont parus dans les 5 dernières années et qui relèvent tous de la problématique éducation et territoires. Certains sont même en anglais, si vous voulez faire un peu de langues étrangères, c'est le deuxième. Donc, vous avez... Alors, les titres sont explicites, et ça sera mon dernier mot. Catherine Rothen-Beauclair, en prenant la territorialisation de l'identité professionnelle, le titre est transparent. Daniel Lalaye, les déterminants des performances scolaires dans les écoles rurales, c'est sur quels sont les gestes professionnels qui sont développés dans les écoles rurales. Sylvie Jouan, histoire et persistance de l'idéal de la classe homogène. Vous savez qu'on forme dans les INSPE comme avant dans les SP ou dans les UFM, on forme à une classe, un cours, un professeur, c'est-à-dire c'est le modèle dominant. Bon, actuellement, près de la moitié des classes sont des classes à deux cours ou à plusieurs cours. C'est-à-dire que le modèle académique dominant n'est plus le modèle statistiquement dominant. Et on devrait former à la classe à plusieurs cours. Vous avez donc le numéro 102 de la revue de l'ADEP, l'ouvrage de la thèse de Anne Cardola sur la typicité qui a montré que des enseignants de l'école rurale, que ces enseignants avaient des caractéristiques spécifiques. Un ouvrage général que j'ai commis sur les inégalités d'éducation et d'orientation qui date de 2013, en montrant que il y a un impact du territoire sur l'éducation et sur l'orientation en zone de montagne et en zone rurale isolée. Même chose avec inégalité d'orientation et territorialité, contribution rapportée UNESCO. Vous avez l'une d'entre vous est intéressé, l'évaluation d'un dispositif de co-enseignement qui a été mis en place à la diligence de l'institution sur le plateau Ardéchois et qui a mis systématiquement dans toutes les classes uniques deux profs en même temps dans l'école. Ce qui fait que ça recompose aussi le rôle de chacun parce que quand il y a deux profs en même temps, tout le temps dans l'école, ils peuvent pas enseigner tous les deux. Il y en a un qui peut enseigner et l'autre qui a une autre posture de type accompagnatrice, etc. Il n'y a pas que la posture magistrale. Donc, c'est tout à fait intéressant pour vous. Bon, en anglais, je vous ai mis les spécificités territoriales d'apprentissage et d'enseignement. Et puis enfin, apprentissage et enseignement en tension dans les territoires ruraux, montagnards et urbains d'Europe du Sud, c'est une approche non seulement pluridisciplinaire, mais comparative sur les questions d'éducation et territoire.